Nous allons maintenant entendre Vincent Kaufmann, qui est professeur à l'Université de Saint-Gall, professeur de littérature et d'histoire des médias, qui a consacré de nombreux travaux à l'étude des avant-gardes. Il vient de nous parler de son dernier ouvrage, Dernière nouvelle du spectacle, Ce que les médias font à la littérature, paru au Seuil en 2017.
Voilà, alors à mon tour de remercier tout d'abord Antoine Compagnon pour cette invitation qui me touche beaucoup et qui m'honore. S'agissant de ce livre, Dernière nouvelle du spectacle, je voudrais expliquer dans un premier temps en trois points un petit peu l'origine de ce livre. Ça sera comment j'ai écrit non pas certains de mes livres, mais au moins le dernier. Triple origine, donc. Il y a tout d'abord mon intérêt depuis une quinzaine d'années pour les médias, ou plus exactement pour certaines théories des médias, pour l'histoire des médias. Je me suis convaincu peu à peu que les médias, les environnements médiatiques, les médiasphères, comme dirait Régis Debray, constituent des paramètres essentiels pour comprendre des pratiques littéraires et plus généralement culturelles. Des paramètres décisifs également pour interpréter des contenus, des textes, des positions ou des stratégies d'auteurs. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous écrivons, nos modes de communication, d'apparition ou éventuellement de disparition, tout cela est déterminé ou du moins marqué par des environnements médiatiques de façon plus ou moins consciente. On peut même faire dans cette perspective l'hypothèse d'une sorte d'inconscient médiatique ou d'un impératif médiatique fonctionnant de manière analogue au surmoi freudien, c'est-à-dire de façon d'autant plus tyrannique qu'il reste inconscient. Il est sans doute aussi difficile d'en prouver scientifiquement l'existence qu'il a été difficile d'établir l'existence de l'inconscient freudien. Je m'en console en constatant que je ne suis pas le seul ni le premier à entendre dans ce que je lis, dans ce que je vois, quelque chose de cet ordre. Une généalogie de la tentative de penser l'inconscient médiatique, qu'on peut comprendre aussi plus largement comme la question de l'affection du sujet par la technologie, devrait sans doute remonter au moins à Walter Benjamin, passer par l'incontournable McLuhan, avant d'aboutir en France du côté de Régis Debray, et plus récemment encore d'un Bernard Stiegler, via Gilbert Simondon, que Jean-Pierre Bertrand a déjà évoqué tout à l'heure. Mais les arguments les plus convaincants à l'appui d'une telle position, c'est à mon sens l'apatride Wilhelm Flusser qui les livre, puis des théoriciens des médias allemands comme Friedrich Kittler qui est actuellement en passe d'être traduit en France. Alors je ne suis pas techno-déterministe, comme il arrive aux sociologues de le reprocher aux théoriciens et aux historiens des médias, aux médiologues, ou alors je ne le suis que secondairement, c'est-à-dire en étant conscient qu'entre technologie et subjectivité, entre médias et pratiques littéraires, il existe des rapports de cause à effet complexes et réversibles, des actions, des réactions, des rétroactions de toutes sortes, qu'il est passionnant mais aussi parfois difficile de reconstituer. Il y a de la culture, de l'humain, du social dans toute forme de technologie, mais inversement, il y a de la technologie dans la façon dont nous pensons, dont nous écrivons. On pourrait considérer que ce reproche de techno-déterminisme, il est un petit peu périmé depuis les travaux de Bruno Latour. En tout cas, je crois qu'il est d'autant plus important d'être conscient aujourd'hui de prendre acte de ces déterminations par la technologie que nous vivons une époque de changement médiatique accéléré. À peine la télévision s'est-elle installée comme média dominant et à peine prenons-nous la mesure de cette domination que déjà la télévision commence à être délogée par les technologies de communication numérique. L'imprimé a été central et quasiment sans concurrence pendant 5 siècles, la télévision aura tenu 30 ans, et le numérique ne cesse de se transformer, de muter, et en passant de contaminer, de reprogrammer tout ce qui lui préexiste. Nous ne pouvons pas faire, je crois, comme si la culture de l'imprimé dont procède une histoire de la littérature également vieille de 5 siècles n'était pas aujourd'hui décentrée et reprogrammée une première fois par la vidéosphère et une seconde fois par l'hypersphère qui ne cesse elle-même de muter, de se reconfigurer. Nous ne pouvons pas faire comme si finalement rien dans un tel décentrement ne changeait quelque chose à la littérature, comme si celle-ci n'en était pas affectée. C'est du moins ce que j'ai cherché à montrer en m'attachant aux aventures et aux avatars contemporains de l'auteur, qui, c'est ma thèse, n'est plus tout à fait ce qu'il était depuis que les apparitions cathodiques font partie de son cahier des charges, et encore moins depuis qu'il compte ses amis ou ses followers sur Facebook ou Twitter. Cette réflexion très générale a coïncidé avec ma deuxième origine, une interrogation plus précise qui portait sur les dispositifs, sur les textes autobiographiques au sens très très large du terme. J'ai beaucoup travaillé il y a 15 ou 20 ans sur Guy Debord, et plus particulièrement sur le dernier Debord, auteur de la fin des années 70 à sa mort en 1994, de très nombreux textes autobiographiques, d'autoportraits, etc. Il tombait presque sous le sens que ses œuvres faisaient partie, du moins dans la perspective de Debord, du combat qu'il entendait continuer de mener au-delà de la fin de l'aventure situationniste contre la société spectaculaire, qu'elles étaient donc anti-spectaculaires dans leur intention du moins. Par contre-coup, il fallait se demander également ce qu'était une autobiographie spectaculaire ou par exemple en quoi les œuvres autobiographiques de Debord se distinguaient-elles radicalement de genres tels que l'autofiction, dont la montée en puissance est strictement contemporaine du Debord post-situationniste. On peut lire l'ensemble des œuvres autobiographiques de Debord, on n'y trouvera rien sur sa vie intime ou sexuelle, on n'y trouvera aucun règlement de compte avec des ex-maîtresses ou des ex-épouses, aucune exécution symbolique, personne à humilier, pas de bourreau ni de victime, pour prendre quelques-unes des rubriques qui font régulièrement partie du cahier des charges de l'autofiction, et qui mettent du même coup celle-ci au régime spectaculaire. Alors il a fallu que je lise ce dernier Debord pour comprendre que le spectacle, c'était peut-être fondamentalement un assujettissement au regard de l'autre que Debord ne cesse de réfuter, de façon parfois tout à fait explicite. Le spectacle est un impératif d'apparition, mais c'est une apparition qui coûte, pour laquelle il faut payer de sa personne, en aveu intime, en humiliation, en agression, etc. C'est précisément tout cela, je crois, que Debord a refusé avec une très grande opiniâtreté. Troisième origine, mes réflexions sur le sens politique de l'aventure de la théorie littéraire rassemblées dans un livre intitulé « La faute à Mallarmé » paru il y a 7 ans, où je m'essaye pour la première fois à la médiologie littéraire. La question que je posais dans ce livre, c'était en somme, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce que nous attendions, puisqu'il s'agissait aussi de mes propres années de formation, de la mouvance avant-gardiste, théorique, réflexive. Qu'en espérions-nous, quelles opérations, notamment politiques, la théorie littéraire devait-elle nous permettre d'effectuer ? Il s'agissait donc d'une interrogation plutôt analytique qu'historique de la théorie littéraire. J'étais amené à constater dans ce contexte que la mouvance théorique réflexive participait d'une sorte de sacralisation de l'écriture et de la littérature, et ceci à un moment où, compte tenu de la montée en puissance de la télévision, l'autorité de la chose écrite, comme on disait alors, entamait une chute dont on ne voit littéralement pas la fin. De cette montée en puissance de l'audiovisuel, la mouvance théorique réflexive n'a rien voulu savoir, s'est constituée, je crois, comme sa conjuration, ou ce qu'on pourrait aussi appeler son refoulement, si on retient l'hypothèse d'un inconscient médiatique. On a sacralisé l'écriture, le texte, comme pour ne pas prendre acte de l'insignifiance à laquelle les vouait le prestige nouveau de l'audiovisuel. On a même décrété la mort de l'auteur, glorieux sacrifice, pour éviter la banalisation de l'auteur aujourd'hui quand même assez avancé. Il était donc tentant, quelques années plus tard, maintenant, de regarder de plus près ce qui s'est passé à partir du moment où la mouvance théorique réflexive a perdu de son attrait, à partir du moment où les digues de la conjuration ou du refoulement ont sauté. Dans « Dernière nouvelle du spectacle », je pars en tout cas de l'hypothèse que, quelque part au tournant des années 70-80, ces digues ont sauté. Et dans cette perspective, ce livre est aussi une sorte d'ajout à la faute à Mallarmé, une façon de répondre à la question « et après ?». Voilà pour le comment ou le pourquoi j'ai écrit ce livre, qui bien sûr n'est pas qu'un ajout à la faute à Mallarmé, c'est aussi et centralement une proposition théorique, on ne se refait pas tout à fait, pour penser la spectacularisation de la littérature, un phénomène qui saute aux yeux de certains, et souvent à mes propres yeux, mais pas toujours, j'ai parfois mes doutes, alors que d'autres se contenteront de hausser les épaules en se demandant où et comment on a pu voir quelque chose de cet ordre. Mais c'est peut-être le propre de la théorie de nous faire voir ce que nous ne voyons pas sans son aide. Donc oui, je revendique l'ADN théorique de ce livre, et je pars du principe que le spectacle, dont les conditions de possibilité technologique sont autant l'audiovisuel qu'aujourd'hui les technologies numériques, que le spectacle existe et qu'il affecte la littérature. Je pense même que le spectacle existe plus que jamais et que si du temps où Guy Debord a commencé à le penser, il était encore possible de sourire des implications complotistes d'une telle théorie ou éventuellement de considérer que depuis la caverne de Platon, les progrès en philosophie étaient assez lents. Le spectacle est devenu, dans le contexte de l'économie contemporaine de l'attention et de la visibilité, quelque chose de tout à fait objectif. Le spectacle n'est plus à comprendre comme l'hypothétique agent d'un pouvoir capitaliste occulte cherchant à nous persuader de toutes les manières possibles des charmes de la société marchande. Il roule désormais pour son propre compte. Du point de vue de l'économie, de l'attention et de la visibilité dans laquelle nous nous trouvons, il coïncide avec sa propre fin, puisque l'attention et la visibilité sont devenues en quelque sorte une nouvelle monnaie, puisqu'elles constituent un capital par ailleurs aisément monétisable. La visibilité est une valeur, a de la valeur, et donc, il vaut la peine de se demander comment elle est produite, un peu comme on se posait autrefois des questions sur la production du texte. L'économie de l'attention, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette conceptualité, c'est quand même très simple à comprendre. Il suffit de reprendre l'énoncé très célèbre de Patrick Lelay qui définissait, il y a un certain nombre d'années, sa tâche comme directeur de TF1 comme étant de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. C'est aussi simple que ça, l'économie de l'attention. Donc, mon livre est une proposition théorique, une méthodologie pour penser le spectaculaire et non pas une introduction à la littérature contemporaine, il faut le préciser. Mais je suis conscient de ne pas en être quitte pour autant avec la question de l'extension de la spectacularisation de la littérature sur laquelle les interrogations et les objections à mon livre ont eu tendance à se concentrer. Toute la littérature, quelle part, pourquoi tels auteurs et pas tels autres, pourquoi seulement ceux-ci et pas ceux-là. Alors, après avoir expliqué pourquoi j'ai écrit ce livre, il me reste à rendre compte des raisons pour lesquelles un certain nombre de chapitres manquent et pourquoi je ne les écrirai probablement pas. Ma position en écrivant ce livre a été, je crois, celle d'un clinicien qui aurait découvert une sorte de maladie, la spectacularisation de la littérature. Alors, la métaphore est immédiatement problématique puisque l'idée de maladie implique un jugement de valeur. Mais en même temps, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse effectivement d'une maladie, d'une infection, et donc je prends le risque, qui est également celui de passer pour décliniste, ce que je m'obstine à penser que je ne suis pas, mais peut-être que tous les déclinistes pensent qu'ils n'en sont pas. J'ai découvert une maladie, j'essaye de la décrire, d'en analyser les causes et quelques conséquences. Et pour en prouver l'existence, j'ai procédé à des biopsies littéraires, à de minuscules prélèvements sur les corpus de quelques auteurs pour qu'on puisse voir, en somme, à quoi le virus spectaculaire ressemble. Quelques prélèvements, quelques biopsies de rien du tout, quelques arrêts sur image, comme je les appelle. Je ne me prononce pas sur l'état de santé de l'ensemble des œuvres convoquées, que je ne réduis bien entendu pas à ces quelques cellules éventuellement porteuses du virus, et je ne me prononce pas non plus sur tout le reste, sur tous les autres auteurs, ce qui fait quand même beaucoup. Pour continuer de filer ici la métaphore médicale, je dirais, toute proportion gardée et toute modestie mise à part, je suis un peu dans la position d'un Freud découvrant la névrose. Alors, que fait Freud ? Il va d'une part présenter un certain nombre de cas cliniques devenus célèbres. Je pourrais dire dans cette perspective que Christine Angot est ma Dora à moi et que Serge Dubrovski est mon homme au loup ou au rat, plutôt au rat. Mais d'autre part, Freud va poser la névrose comme la chose du monde la mieux partagée, comme notre destin à tous ou presque tous, puisque nous n'en sortons que par la porte de la perversion ou de la psychose. Je crois que le spectacle fonctionne un peu de la même manière. On peut s'attacher d'une part à des auteurs qui produisent des symptômes de spectacularisation particulièrement spectaculaires et considérer d'autre part que tout le monde est aujourd'hui plus ou moins soumis à l'impératif spectaculaire, mais alors on arrive à un point, à une sorte d'aporie, à un point où le diagnostic va simplement perdre de sa pertinence et de son intérêt. Donc, d'une part, la spectacularisation de la littérature telle que j'essaye de la décrire ne concerne pas seulement les auteurs dont j'ai parlé, ni même seulement certains genres ou types de textes, comme par exemple l'autofiction, qui bénéficie dans mon livre d'une sorte de privilège historique, voire autobiographique, puisque c'est ce qui m'a d'abord frappé, moi. Il y a de très très nombreux autres auteurs auxquels j'aurais pu, auxquels j'aurais sans doute dû m'intéresser. Mais d'autre part, la spectacularisation ne concerne certainement pas tout le monde. Elle suscite aussi, de façon plus ou moins consciente, plus ou moins intuitive, des stratégies de résistance, des lignes de fuite ou d'affrontement, comme les pervers ou les psychotiques en trouvent pour échapper à la névrose. Et puis, chez beaucoup de ceux qui sont affectés à un titre ou un autre par le spectaculaire, comme le montreraient des biopsies bien faites, on peut très bien considérer que ce n'est pas un paramètre nécessairement déterminant de leur pratique et que les réduire à cette dimension-là n'a pas forcément beaucoup de sens. Vous pouvez avoir dans votre peau des cellules dysplasiques, mais vous n'en êtes pas déjà mort pour autant. Alors, quel est le programme ? Il resterait à écrire un deuxième volume qu'on pourrait intituler « Autres exemples de spectacularisation ». Selon les critères exacts qu'on se donne pour définir celle-ci et le sérieux des individus qui se chargeraient du travail, un tel livre comporterait probablement entre 200 et 50 000 pages. Ensuite, il faudrait écrire un troisième volume intitulé « Résistance au spectacle » au pluriel, qui pourrait être un peu plus court, mais ce n'est pas sûr. Cela dépend en fait du nombre d'auteurs qu'on réserverait pour un quatrième volume, qui recueillerait les indécidables ou les indécis, dans lequel on ferait l'inventaire de tous ceux dont on ne sait pas s'il faut les mettre dans le second ou le troisième volume, parce qu'ils auraient par exemple un pied dans le spectacle et un autre dans sa dénonciation. Une Chloé Delhomme, à qui je consacre quelques pages, pourrait très bien entrer dans cette dernière catégorie. Mais comment dire, je n'ai plus vraiment l'âge de jouer aux catégories qui, pour être tenables ou pertinentes, vont exiger un processus de différenciation, de précision presque à l'infini, qui sera aussi nécessairement un processus de dilution. Et puis, s'agissant du spectaculaire, il y a aussi le problème que faut peut-être éviter les catégorisations trop précises parce que celles-ci entraînent presque immanquablement des jugements de valeur. Ça m'a frappé aussi dans les réactions à mon livre. Quand on pose la question « est-il, est-elle spectaculaire ?», c'est une question qu'il est souvent difficile de trancher, mais elle est la plupart du temps reçue comme un « est-il ou est-elle un bon ou un méchant écrivain ?». Et c'est une question à laquelle je crois avoir refusé de répondre du début à la fin de mon livre, faute de critère irréfutable pour le faire, faute aussi de goût pour des approches, en fin de compte, normatives. On peut sans doute être un bon écrivain tout en ayant quelques pieds ou quelques orteils dans le spectaculaire, et inversement, ne pas en avoir n'est pas un label de qualité littéraire. C'est là tout le débat avec les fans du champ littéraire et du capital symbolique. Donc, pirouette et salut avant que le rideau ne tombe, c'est un peu à chacun de continuer l'enquête et la discussion selon l'intérêt ou les intérêts qu'on y trouve. Je terminerai par une petite mise en garde à celles et ceux que j'aurais réussi, j'espère pas trop, à enthousiasmer pour de futures chasses au spectaculaire. C'est salissant le spectacle, c'est salissant de se plonger dans son économie sacrificielle, et c'est peut-être une bonne idée de ne pas garder les mains dans le cambouis trop longtemps. Donc, conclusion, veillons à ne rester que des intermittents du spectacle. Merci.
Merci beaucoup, Vincent. Existe-t-il des irréductibles au spectaculaire ou pas
dans votre...
Des irréductibles, des gens qui échappent complètement qui, pour vous ou plus
C'est une question à laquelle il est très très difficile de répondre.
Ou bien est-ce que même ceux qui voudraient être irréductibles sont récupérés malgré eux est-ce que
voilà, ça pose immédiatement tout le problème de la récupération. On peut commencer par se demander si Debord a été un irréductible opposant, ennemi du spectacle, s'il n'a pas été récupéré. Ensuite, c'est presque une question d'interprétation. Quand on devient trésor national, ça finit quand même par poser un problème. Même si être intégré dans le spectaculaire et bénéficier de cette gloire-là, d'être trésor national, c'est sans doute pas du tout la même chose. Je crois que vouloir identifier des auteurs qui seraient irréductibles, c'est presque impossible. Il y a sans doute des auteurs... Parce que s'ils sont irréductibles, simplement, on ne les verra pas. C'est toute la question qui est impliquée par ma démarche et par ce genre de conceptualité. J'y faisais allusion tout à l'heure. C'est toute la question aussi du capital symbolique selon Bourdieu. Je pense que dans une économie de l'attention, telle que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'idée de capital symbolique n'a plus beaucoup de sens. Et donc, dans une certaine mesure, on n'échappe plus à la visibilité. Alors, on peut gérer sa visibilité de toutes les façons possibles, mais il y a cette espèce de nécessité à être visible pour que ce soit simplement significatif. Bien sûr, on peut toujours miser sur le capital symbolique, mais si personne s'en aperçoit, parce que fondamentalement, plus personne n'en a quelque chose à battre du capital symbolique, on ne va pas aller loin avec ça. Alors je crois qu'il existe des auteurs qui sont très forts pour analyser le spectacle et pour, à la limite, en jouer, pour le défier, pour le tenir en respect. Il y a des auteurs qui le font très, très bien occasionnellement.
Pierre Michon, par exemple.
Par exemple. Voilà, ouais. J'étais invité aussi à plusieurs émissions de radio à cause de ce livre. Et dans une des émissions, comme ça, pour illustrer un peu mon propos, le journaliste avait mis un extrait d'un des premiers passages de Patrick Modiano chez Pivot, dans Apostrophe. C'est génial, il ne termine aucune phrase. Il bégaye du début à la fin. Vous voyez ce que je veux dire il ne dit rien, il ne termine aucune phrase. C'est l'anti-performance par excellence.
C'est sa marque de fabrique. Oui.
Donc, voilà, à ce niveau-là, en tout cas, une façon, je crois, de jouer, chez lui en l'occurrence, de façon assez consciente de cet impératif spectaculaire qui n'est bien entendu pas non plus réductible à des passages à la télévision.
Et en même temps, je veux dire, tout ce que vous évoquez, ce qui est frappant, ça a été, je pense, la disparition du capital symbolique. Vous évoquez Pivot, c'est la disparition de quasi toutes les vraies, les grandes émissions, quoi qu'on ait pu en penser, de littérature, d'invitation d'écrivains.
Exactement.
Il y a parce un que je veux dire, vous citez Modiano, mais enfin, quand voilà, Albert Cohen, ça reste inoubliable, par exemple, comme apostrophe. Alors, comment interprétez-vous cette parallèlement à ce spectacle grandissant, la disparition des lieux institutionnels du spectacle littéraire à la télévision? Il n'y a plus de grandes émissions littéraires, quasiment plus.
Vous voulez dire aujourd'hui,
ouais,
ou à l'époque de Pivot?
Aujourd'hui.
Je crois que ça demanderait qu'on fasse toute l'histoire de la télévision. Je crois que l'histoire de tout média, c'est l'histoire d'un progrès, d'une capacité de ce média de trouver ce qui fait vraiment sa force. Et il y a cette très belle histoire des émissions littéraires qui a été écrite par Tudoret, où on voit très bien l'évolution dans un premier temps jusqu'à peu près à apostrophe. La télévision est très respectueuse de la littérature, de l'écrit. C'est l'époque où la télévision se rend chez les écrivains. On leur rend visite à domicile, on les voit dans leur bureau, on les voit écrire. Enfin, il y a toute cette mise en scène des rituels de l'écrire. Et puis après, avec Pivot, eh bien, ce sont les écrivains qui se déplacent. C'est déjà un changement, c'est déjà un tout
pas,
autre
pas
rapport
Cohen,
de force.
Je crois, justement. Je crois qu'il
oui,
va, il
y a,
va, oui,
y a
parce
eu
qu'il
quelques
a donné
exceptions.
Rouge,
mais globalement, ce sont les écrivains qui vont se déplacer dans les studios pour des émissions littéraires, et peu à peu, on va aller vers des émissions où ils sont invités en compagnie d'un sportif, d'une starlette du porno et d'un acteur. C'est-à-dire, ils sont là, ce sont de purs employés d'une économie de la visibilité. Je me souviens une fois d'avoir regardé par hasard un 31 décembre un bout d'émission sur TF1, il y avait Frédéric Baïk-Bédé qui passait une demi-heure. C'était juste pour faire trois plaisanteries. Ça n'avait mais plus, strictement plus rien à voir avec la littérature. Donc on va vers une sorte d'économie générale de la visibilité avec la télévision. Et plus la télévision va dans ce sens, moins il y a évidemment de formats spécifiquement consacrés à la littérature. Ce que la télévision fait le mieux, finalement, c'est de montrer des gens qui vont parler d'eux-mêmes, qui vont parler de leurs souffrances, qui vont s'exposer. Il y a eu une coïncidence magnifique pour moi. Le jour où j'ai fait mon service de presse, c'est le jour où a été enregistrée l'émission avec L'esclandre de Christine Angot avec Sandrine Rousseau. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Christine Angot reprochait à Sandrine Rousseau centralement, c'est « je vous interdis de parler au nom des femmes ». Je crois que ça peut être le résumé du discours spectaculaire, c'est on n'a pas le droit de parler au nom d'eux, on est là pour parler de soi. Si vous écoutez Christine Angot, tout ce qu'elle dit, semaine après semaine, c'est ça. Elle félicite les gens d'être... Ah oui, vous parlez de vous, vous êtes authentique. C'est toujours des certificats d'authenticité qui sont distribués. On est au cœur du spectacle avec ça, parce que c'est évidemment le contraire d'une authentique authenticité. C'est une rhétorique, cette histoire-là. Mais parler au nom d'eux, c'est-à-dire tenir un discours politique, par exemple, voilà, ça ne convient pas du tout à la télévision, fondamentalement, parce que quelqu'un qui parle au nom d'eux, il parle au nom de quelque chose qui n'est pas là. Alors pourquoi il viendrait à la télévision? Quand on est à la télévision, c'est pour se montrer, pour parler de soi. D'où aussi cette congruence entre l'autofiction et le... La montée en puissance de la télévision. Apostrophe commence en novembre 1975 et le label autofiction est inventé par Dubrovski en 1977.